Bosco Nduimana.
Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Une conférence débat organisée ce jeudi par la Banque centrale et le ministère des Finances a dégagé certaines stratégies que l'on pourrait adopter en vue d'assurer la stabilité macroéconomique. Vous entendrez les explications du nouveau ministre des Finances. Dans ce journal, un expert en gestion des politiques économiques nous démontrera que l'opacité dans le commerce des produits pétroliers reste à l'origine de leur pénurie persistante dans le pays. Et à sa troisième journée de la visite qu'il effectue au Burundi, le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, a inauguré ce jeudi à Minago un monument en la mémoire de Mgr Michael Courtenay, qui était nonce apostolique au Burundi et tué à Mutsurirwa près de Minago. C'était le 29 décembre 2003. Voilà pour les grands titres.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
Les connexions Internet fournies par la société de téléphonie mobile Lumitel en commune Wururi sont en panne depuis ce mardi, paralysant ainsi certaines activités dans les services étatiques ou les banques. Les agents de cette société sur place expliquent qu'ils ont manqué de carburant pour alimenter le groupe électrogène, mais qu'ils ont la promesse d'être approvisionnés ce jeudi. Notre correspondant Zenon Zambimana nous rapporte que ce carburant ne leur était pas encore parvenu jusqu'à 15h30 de ce jeudi.
Depuis ce mardi, le centre Bururi et ses environs fait face au manque de connexion à l'Internet qui était fourni par Lumitel et comme conséquence, c'est la paralysie de presque toutes les activités à l'agence de la banque BBCI, de même que différentes microfinances comme Ishaka, Roge Family, Secadem et Post-Agence Bururi. Les employés de toutes ces institutions financières déplorent qu'aucune opération bancaire n'est plus possible depuis 3 jours suite à ce manque de connexion, ce qui a déjà provoqué beaucoup de grognes chez leurs clients qui rentrent sans être servi. D'autres grognes se font entendre également dans d'autres services publics et privés, dont ceux exerçant le travail de transfert d'argent via le système de Limicash et chez d'autres utilisateurs des réseaux sociaux via Limitel. Tous demandent à cette téléphonie mobile de trouver solution à ce problème de connexion. À ce sujet, les employés de Limitel à Bururi nous ont indiqué que ce problème est lié au manque de carburant de type mazout qui était utilisé pour faire fonctionner l'antenne située en haut de l'école paramédicale de Bururi, tout en rassurant que ce carburant sera disponible d'un moment à l'autre en provenance de Bujumbura. Mais jusqu'à 16h de ce jeudi, ce produit n'était pas encore arrivé à Bururi. Depuis Bururi, dans la province de Burunga, Zeno Zamimana pour la radio Isanganiro.
Merci Zeno. Une année de prison ferme, une amende d'1 million de francs burundais chacun et des dommages et intérêts de 500 000 francs burundais à verser à l'État. Telle est la peine infligée par le tribunal de grande instance de Rumonge à 2 hommes de Muyange, en commune Nyanza, dans la province de Burunga. Les 2 hommes ont été arrêtés ce mercredi en possession de 440 litres d'essence de contrebande et lors d'une audience publique de ce jeudi, ils ont été reconnus coupables d'atteinte à l'économie nationale. Pascal Ndaisenga.
Devant le tribunal de grande instance d'Urmonge, le ministère public a indiqué que dans la voiture dans laquelle se trouvait le carburant avait été aménagé un stern d'une capacité de 440 litres aidant ainsi au transport illégal du carburant. Les accusés ont plaidé coupables, affirmant qu'il faisait le trafic de ce carburant depuis le mois de juillet 2025. À la question de savoir s'il ne connaissait pas que le transport du carburant est interdit, Paul Ndagijimana et Asmane Tuyihimbaze expliquent qu'ils ne s'attendaient pas à une surprise, d'autant plus que le carburant appartenait à un officier de la police de grade de colonel de police. Avant l'arrestation de ces 2 hommes, cet officier de police avait été surpris à Kiguena en train de vendre 60 litres de carburant, selon toujours le parquet, avant de tenter de se défendre avec son arme pistolet. Reconnu coupable d'atteinte à l'économie du pays, Pascal Ndagijimana et Amos Tuyihimbaze ont écopé d'une année de prison ferme. Ils doivent payer chacun 1 million d'amende et une somme de 500 000 francs burundais à l'État. Les 500 litres saisis seront vendus aux enchères et l'argent mis dans les caisses de l'État, selon le verdict rendu par le tribunal de grande instance de Lumonge. La voiture qui transportait le carburant a été remise à l'État. Les condamnés avaient demandé la clémence du tribunal. Selon eux, ils ne pouvaient pas refuser l'offre de travail alors que eux et leurs familles se trouvent dans la pauvreté. Dolmonge, Pascal Ndaisenga, Radio Isanganiro.
Et certains taximens de la zone Mouha au sud de la ville de Bujumbura faisant le transport de personnes à moto ou en voiture se réjouissent de l'équité qui caractérise la distribution du carburant dans certaines stations-service, même si certains cas de fraude ou de favoritisme sont signalés. Ceux qui se sont entretenus avec nos reporters ce jeudi ont reconnu l'implication des agents de la société pétrolière du Burundi Sopebu à faire respecter les files d'attente. Ces transporteurs demandent que toutes ces stations soient également soumises aux mêmes règles que les autres. Un reportage d'Alexis Ndaïsenga.
Ce sont des conducteurs qui exercent le métier de transport en commun dans la zone Mouha, commune Mugere, c'est au sud de la ville de Bujumbura, à environ 8 km, rencontrés à la station Rubisi Kanyosha, en train de faire la queue pour se procurer du carburant. Ils se disent satisfaits de la manière dont le carburant est distribué.
Cette semaine et la semaine passée, nous avons réussi à obtenir du carburant, vraiment. Ceux de la Sopebu essaient de nous aider afin que chacun puisse en avoir sans que personne ne dépasse l'autre.
Les autres stations fonctionnent bien parce que quand un membre de Sopebu arrive, il distribue 50 jetons aux voitures et 50 autres aux motos. Ensuite, les voitures entrent, après les motos et enfin les mototricycles, communément appelé Bajaj.
Même s'ils se réjouissent de cette situation, ils déplorent tout de même que certaines stations ne leur facilitent pas l'accès au carburant.
Le plus grand problème que nous avons, c'est que certaines personnes viennent à la station, ne dépassent dans la file et prennent la pompe pour se servir en carburant. À cause de cela, nous n'en trouvons plus. Moi, ça fait plusieurs semaines que je viens et jusqu'à maintenant, je ne suis pas sûr d'en obtenir.
Ces citoyens demandent que ces stations respectent les mêmes lois et réglementations que les autres.
Nous demandons que d'autres stations fassent comme celles qui respectent les règles, sinon qu'on les ferme, qu'on les appelle plus stations.
Le carburant devrait être livré dans les stations bien organisées. Il faudrait abandonner les stations désordonnées.
Bien qu'ils aient refusé de s'exprimer sur nos micros, le responsable de certaines stations pointées du doigt par ses citoyens affirme de leur côté qu'ils ne rencontrent aucune difficulté particulière pour servir les clients en carburant.
Et l'opacité dans le commerce des produits pétroliers reste à l'origine de la pénurie qui persiste dans le pays. Analyse d'un expert en gestion des politiques économiques qui déplore que les riches ne s'inquiètent en rien et cela au détriment des pauvres. Serge Niramebura trouve que cela semble généralisé pour les produits de première nécessité. On l'écoute.
Disons que les biens communs, ce que les gens ont de vie en commun ou de la classe moyenne disparaît. Ce n'est pas que le carburant, il y a le sucre qui manque, il y a la bière, il y a les devises et on dit que les devises manquent. Finalement, ce que nous devrons comprendre dans le développement ou l'évolution de l'économie burundaise, c'est qu'il y a de plus en plus disparition de l'économie formelle au profit à la prolifération de l'économie informelle. La conséquence, c'est quoi? C'est que les riches, le secteur informel ne paye pas de taxes. C'est qu'il y aura continuité de la pauvreté de la classe moyenne, enrichissement de la classe qui est riche. Le fossé entre les riches et les pauvres va continuer à se creuser. Sinon, moi je dirais que les devises ne manquent pas, le carburant ne manque pas, le sucre ne manque pas. Il est juste dans le circuit informel. C'est dans les mêmes termes que le chef de l'État a expliqué que quand vous estimez la valeur des importations qui sont venues au Burundi, alors que les transactions qui sont passées par la Banque de la République, ce n'était qu'un dixième, alors il a qualifié ça de fraude. Mais vous savez, qui entretient l'économie informelle? C'est l'État. À partir du moment où l'État fixe des prix qui sont inférieurs ou qui sont différents des prix du marché, de là, l'État crée un second marché, ce que vous appelez un marché noir.
Cet expert en gestion des politiques économiques propose que parmi les solutions envisagées, le gouvernement doit prendre des mesures visant à lutter contre le marché parallèle des produits pétroliers. La digitalisation des services publics, la réforme de l'administration publique, la réduction du déficit budgétaire sans recourir aux emprunts de la Banque centrale sont quelques-unes des réformes que propose le ministre des Finances en vue d'assurer la stabilité macroéconomique. Dans une conférence débat organisée ce jeudi par la Banque centrale et le ministère des Finances, le ministre Alain Dikoumana a exhorté les responsables à changer de mentalité afin d'arriver à la vision du Burundi où les conditions de vie de la population seront améliorées et les inégalités réduites. Suivez le ministre des Finances.
Nous avons un défi lié au déficit budgétaire, comme vous avez pu le constater, parce qu'il y a un décalage entre les dépenses et les recettes qui doivent normalement financer ce déficit, en essayant de prioriser les secteurs pour lesquels nous pensons qu'ils doivent avoir un impact sur l'économie. Donc il faut beaucoup plus accroître la part des investissements au niveau de notre budget, ce qui n'est pas le cas pour actuellement. Deuxièmement, il y a des secteurs sociaux qu'il faut continuer à soutenir. Vous savez qu'il y a des politiques nationales qui ont été mises en place, notamment au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'agriculture, beaucoup plus au niveau des subventions des engrais. Comme ça, c'est une part importante de la population. Ces réformes, cette fois-ci, doivent s'orienter beaucoup plus sur la catégorisation des plus nécessités. La part du secteur informel, parce qu'on est côté mobilisation des ressources, le secteur informel présente une part importante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de recettes qu'on peut mobiliser qui ne sont pas mobilisées du fait qu'ils ne sont pas dans la base des données. Si je prends la base des données de l'OBR, on a seulement 13 000 contributeurs. 13 000 contributeurs. Alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des activités économiques sur lesquelles on peut essayer de prélever des taxes. Ça va nous permettre d'élargir notre assiette fiscale. Au niveau des entreprises publiques, donc il faut qu'on essaie également d'avoir le continuity trésor. Pour financer le déficit, souvent on fait appel à la BRB. L'exercice 23-24 à la clôture, nous avons d'un côté 530 milliards dans les comptes publics. De l'autre côté, nous avons plus de 400 milliards de restes à payer pour le budget qui vient de s'écouler. On est obligé d'aller faire recours à la Banque centrale pour avoir les avances, alors que nous avons des sociétés publiques qui ont des ressources qu'on peut utiliser. Le troisième point, c'est par rapport au projet financé par les partenaires. On est à 21% de taux d'absorption. Je donne l'exemple de la Banque mondiale, on est à 1,9 milliard de dollars, globalement l'enveloppe, mais on a 1,6 milliard de dollars qui n'est pas utilisé. On a déjà des fonds, mais ce ne sont pas utilisés. Pour le financement du déficit toujours, nous avons le secteur bancaire avec des ressources qui sont là. Pourquoi pas ne pas développer le marché des capitaux. D'autres réformes, c'est par rapport à la digitalisation des services publics. Si on digitalise les cartes d'assurance maladie, ça veut dire qu'on saura exactement qui est financé. Si on digitalise le maïs, la même chose. Si on digitalise le secteur minier, ça veut dire qu'on aura des informations, ça va nous permettre d'avoir des informations sur les recettes qu'on escompte avoir à la fin de l'exercice. La digitalisation, si on accélère, nous permettra de dégager des économies en termes de recettes. Au niveau de la dette publique, maintenant il faut d'abord, avant de contracter un emprunt, il faut être sûr que cet argent dont nous allons contracter, est-ce que ça répond aux besoins de l'économie?
Le ministre des Finances, Alain Dikoumana.
Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel.
Inauguration ce jeudi à Minago du monument en la mémoire de Mgr Michael Courtenay, nonce apostolique du Burundi qui a été tué à Muturirwa près de Minago le 29 décembre 2003. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de sa sainteté, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État au Vatican, et Prosper Bazombanza, vice-président du Burundi, ont procédé à cette inauguration après la pose de la première pierre pour la construction d'un centre de santé sur place en la mémoire de ce nonce pour pérenniser son engagement en faveur de la paix et de la réconciliation au Burundi. 22 ans après sa mort, le Vatican réclame toujours de la justice à cet illustre disparu. Malheureusement, nous ne parvenons pas à joindre notre correspondant Jean-Pierre Misako. Dans la suite d'interviews que la radio-télévision Isanganiro a réservée aux femmes et aux jeunes candidats aux élections collinaires et de chefs de quartier du 25 août prochain, nous découvrons ce jeudi les changements que veut apporter un jeune du nom de Niyukuri Dieudonné de la colline Muhanda, en commune Rumonge de la province de Burunga. Parmi ses priorités, il s'engage à accorder une attention particulière aux personnes les plus démunies, également à aider les habitants de cette colline à obtenir la carte d'assurance maladie et ainsi accéder facilement aux soins de santé. On l'écoute.
Je m'appelle Niyukuri Dieudonné, connu sous le nom de Jordan. Ma décision de me porter candidat aux élections collinaires est motivée par les problèmes concrets qu'encontrent les habitants de notre colline, en particulier la question cruciale de l'accès à l'eau potable. Actuellement, nous ne disposons qu'un seul réseau d'eau. Lorsqu'il se tarit, les citoyens n'ont d'autre choix que de recourir à des sources non traitées, mettant ainsi leur santé en danger. C'est pourquoi je souhaite œuvrer à l'aménagement de notre fontaine pour améliorer et augmenter l'approvisionnement en eau potable. Parmi mes priorités figure également le soutien aux personnes les plus démunies, notamment en les aidant à obtenir une carte d'assurance maladie CAM, essentielle pour leur accès aux soins de santé. Je compte également renforcer la coopération entre les collines voisines, car ensemble, nous pouvons aller plus loin. Une bonne gestion de l'état civil est aussi au cœur de mes engagements, c'est-à-dire que je veillerai à ce que chaque naissance soit correctement enregistrée pour que chaque enfant soit reconnu par l'État dès sa venue au monde. Par ailleurs, je souhaite faire appel à des experts en élevage afin de former nos concitoyens aux pratiques d'élevage moderne qui peuvent considérablement améliorer leurs revenus et leur qualité de vie. Si les citoyens me font confiance pour diriger notre colline, je m'engage à mettre en œuvre toutes ces priorités en étroite collaboration avec eux. Je chercherai également des financements auprès des institutions, des organisations et du gouvernement afin de concrétiser ces projets au bénéfice de tous.
Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.